Ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur le pasteur Mino Rantriyamanantena. Merci d'être venu à Radio Présence pour nous parler de tous vos travaux, parce que vous êtes à la fois théologien, vous étudiez la psychologie religieuse, et puis vous nous avez apporté une méditation très brève du psaume 97, mais surtout, vous êtes venu nous annoncer une table ronde interreligieuse sur Jonas. Jonas, ce prophète que beaucoup de personnes connaissent, d'ailleurs on va remettre dans l'oreille des plus anciens un chant de Manique, c'est toute l'enfance d'un certain nombre parmi nous. Jonas, que j'appelle moi le prophète désabusé, alors déprimé, on ne sait pas exactement dans notre société sécularisée. Et Mino, nous nous connaissons, vous étiez venu il y a 2 ans parler de votre foi comme pasteur, de votre déplacement de Madagascar, puis en Europe et puis ensuite à Toulouse. Et en fait, je suis un peu inquiet, même très inquiet, parce que je ne vois pas ce qu'on va pouvoir dire entre nous. Vous êtes pasteur de l'EPUF, alors il faudra nous dire... EPUF,
Église protestante unie de France, une communion entre les luthériens et des réformés en France.
Alors vous parlez dans une radio sans doute œcuménique, radio chrétienne, mais avec un sociologue agnostique dans ses hypothèses. Alors je ne vois pas ce qu'on va pouvoir dire. Est-ce qu'on va pouvoir trouver des mots ensemble pour parler de ces trois thèmes, hein? La psychologie religieuse, moi je suis plutôt sociologue de la laïcité, ensuite Jonas, si, parce que c'est beau, tout le monde le connaît un petit peu, Jonas et le poisson, et puis alors ce livre biblique, qu'est-ce que ça va pouvoir avoir comme rapport avec vos travaux dans la faculté de théologie protestante de Montpellier, d'Henri Bois à Jean Ansaldi.
Alors, je pense que Jonas, comme vous l'avez dit, est un personnage qui parle à tout le monde. ce retour dans le ventre d'un poisson, comme un retour dans le ventre de sa mère, afin de renaître à nouveau, cette nouvelle naissance, cette possibilité de retrouver une nouvelle vie, de repartir à zéro, ça fait rêver beaucoup de gens aujourd'hui, changer de vie, changer de voie, changer de choix. Il me semble que il y a plusieurs manières de vivre ce temps, notamment de ce qu'on appelle la prière, parce que c'est comme ça que dans le livre de Jonas, le passage dans le ventre du poisson est présenté. Et il en profite pour s'adresser aux sources profondes de son identité, aux sources profondes de sa vie, le sens de sa vie, qui pour lui est donc le Dieu d'Israël, le Dieu Yahvé. Et donc, dans plusieurs religions, ce genre de pratique, d'expérience sert à utiliser des formules un peu habituelles, ritualisées, qui fonctionnent comme des moyens pour essayer de réprimer, essayer de refouler les désirs, pour essayer de vivre sans fermer les yeux, comme la politique de l'autruche.
Et donc je l'arrête tout de suite parce que en fait, c'est un discours qui m'est un peu hermétique. Alors, je comprends que vous êtes aussi venu pour parler de la table ronde et que nous aurons le théologien, l'exégète Cyprien Combe de l'Institut catholique qui va dire les prières ou la prière de Jonas. Et ça m'interpelle. Mais alors, moi, je suis hermétique, vraiment allergique lorsque certains cultes ou certaines religions s'approprient Ce symbole, on sait que dans la Bible ou dans d'autres livres révélés, on dit, mais c'est nous qui avons la véritable interprétation. Et alors, le ventre d'abord d'une baleine, je ne vois pas, c'est pas rationnel. Et ensuite, c'est peut-être de la psychanalyse, mais je sais que certaines personnes vont dire, mais c'est déjà tout écrit à l'avance. Détermination, prédestination, je parle à un protestant, prédestination parce que ça annonce déjà les trois jours dans le Sheol, dans les enfers, d'un certain rabbin, Jésus de Nazareth. Dans le Coran, on va trouver aussi qu'il est dit que Jonas est le signe que personne ne peut s'approprier cette hubris, cette idée qu'on pourrait faire changer les païens de comportement. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais oui. Moi, je suis devant un mystère et ça, tant mieux. C'est une tension entre le pôle négatif positif. Et pour moi, je serais plutôt pour dire non, je reste neutre. Neutralité axiologique, c'est trop facile parce que vous savez peut-être que par ailleurs, nous nous retrouvons dans d'autres endroits plus politiques. Mais ici, nous essayons de parler en raison ou de parler en intuition.
D'accord. De mon côté, pour ma part, en tout cas, que cette possibilité de changement est une chance librement, parce que Jonas lui-même avait des projets de fuir la mission qui lui a été confiée, mais dans le ventre du poisson, c'est justement là, dans ce temps de méditation, de retour sur soi-même, retour sur son intériorité profonde, c'est là que son désir profond a cheminé, c'est-à-dire il y avait les pulsions profondes, bien sûr, qui étaient là, mais à côté de ces pulsions, il y avait cette mission, cet appel, cette vocation, comme on dit aujourd'hui, être médecin est une vocation, eh bien, il y a cette vocation, cet appel qui a fait cheminer Jonas, mais ce cheminement, visiblement, n'a pas pu se faire sans ce temps de recul, de méditation, ce que j'appelle le temps de prière, dans cet endroit précis qui est le ventre de...
Mais
symbolique. Hein.
On est en pleine maladie mentale. Qu'est-ce qui a fait que quelqu'un, tout d'un coup, se sent appelé à convertir le monde entier ou à convertir les méchants? On sait que Joseph, le père putatif de Jésus de Nazareth, il avait plein de rêves. D'ailleurs, nous en avons parlé il y a 15 jours ici même. Et on sait aussi que des personnes sont illuminées. Ils pensent qu'ils ont une mission d'être président de la République ou bien d'être dictateur parce que le monde ne peut plus rester comme il est. Je vous vois sourire. Non, mais c'est sérieux. Vous avez, vous, une mission qui a dit qu'un jour, Dieu vous a parlé et dit « Tu seras prophète » ou plutôt « Tu seras pasteur de mon Église en France ?»
Non, pas du tout. C'est-à-dire que là, pour ce qui concerne, en tout cas, c'est comme ça que j'entends ce temps de prière. C'est un temps où il y a plusieurs croyances, plusieurs connaissances, plusieurs paroles font écho au fond de moi et font fonctionner ma raison. Et justement, d'après ce théologien philosophe français du début du XXe siècle qui s'appelle Henri Bois, la vie en tant que citoyen, la vie en tant qu'être humain, est inséparable d'éléments intellectuels qui, pour les croyants, s'appellent des croyances, pour d'autres s'appellent de la connaissance, le savoir. Et ces éléments vont faire écho au fond de chacun pour déterminer le choix, la décision à prendre à un moment donné. C'est ce qui s'est passé, à mon avis, pour ce personnage biblique narré, raconté sous forme de récit par l'auteur de ce livre.
Ils ont baigné dans une famille, ensuite ils ont eu une inculcation religieuse, alors ils sont passés peut-être, on va dire, par une école coranique, ou par le grand séminaire, ou par la yeshiva. Et alors donc, on leur a, noyé le cerveau. Enfin, je me fais, non pas l'avocat du diable, mais je me fais porte-parole de ceux qui essayent de lire Jonas comme un texte de sagesse universelle, sans doute, mais qui, comme le dirait Freud, alors je m'adresse aux psychologues, là, qui sont autant de points d'interrogation, probablement pour nous faire avancer et pas pour nous faire nous combattre.
Oui, oui, tout à fait. Je pense que effectivement, l'identité de chacun est constituée d'une articulation, d'une négociation constante entre ce qu'il pense être au fond de lui-même et ce que les autres pensent qui il est, c'est-à-dire cette identité objective renvoyée par le regard des parents, par le regard du pasteur, de l'imam, du rabbin ou du prêtre. Ou même de l'animateur radio, ce regard-là qui appelle à être. Et au fond de Jonas, il y a autre chose, il y a aussi ce que lui pense être. Et cette négociation est un cheminement constant qui ne s'arrête jamais, au fond, dans la vie. Un autre, justement, vous parliez tout à l'heure du rabbin Yeshua, qui s'enracine sans doute, en tout cas d'après les auteurs qui racontent un peu sa vie dans les évangiles, qui s'enracine dans la figure de Jonas. Eh bien, ce Jésus aussi, dans l'évangile de Marc, n'arrête pas de négocier son identité jusqu'à la fin, jusqu'au moment de sa mort. Un centurion, c'est-à-dire un représentant de l'autorité civile, alors que l'autorité religieuse l'a rejeté, c'est un représentant de l'autorité civile qui le reconnaît. Cet homme est vraiment le Fils de Dieu. Et cette négociation part du début de l'évangile de Marc jusqu'à la fin de l'évangile de Marc.
Mais nous sommes tous fils de Dieu. En tout cas, nous verrons ce que pense M. Roger Attali, qui est déjà venu ici nous parler des fêtes juives, et qui va nous dire « Petit prophète, Jonas, il y a des grands, il y a des petits, ou est-ce que tous les prophètes sont à mettre au même niveau lorsqu'ils nous provoquent à une conversion ?» Et d'ailleurs, nous allons voir, puisque Christophe va nous faire passer cette musique de Manique que vous nous avez apportée, dans le ventre de la baleine, la prière.
Avalé d'un seul coup par le poisson géant, Jonas encore vivant se disait que Yahvé allait lui pardonner, son espoir était grand. Il est resté pendant 3 nuits et 3 jours à prier que Dieu ne pas périr son prophète égaré
dans le ventre de la baleine, le plus haut des poissons. Dans le ventre de la baleine, Jonas était en prison.
Ma foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Et aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur le pasteur Mino Randria. Vous êtes pasteur de l'Église protestante unie de France. Vous venez nous annoncer une table ronde interreligieuse le 2 juin à 14h30 au Vieux Temple. Et j'ai déjà dit qu'il y aurait l'exégète le père Cyprien Combe qui viendra nous parler de la prière de Jonas. On a vu dans cette prière où Jonas, au lieu d'être timoré et d'être désobéissant ou lâche, eh bien, il va avoir l'audace d'aller convertir les païens. Il y aura donc Roger Attali qui viendra nous poser la question « Y a-t-il des petits prophètes ?» puisque dans une certaine tradition œcuménique, au sens protestant, catholique, orthodoxe et autres, ceux qui pensent que Jésus est fils de Dieu, qu'il est vivant aujourd'hui ressuscité, pour certains monté au ciel, autant d'images qui posent des questions. Eh bien, il y aura également vous-même, je crois, monsieur le pasteur, et puis il y aura aussi un PowerPoint d'une quinzaine, une vingtaine de diapositives à partir de toutes ces images, la riche iconographie. Mais revenons justement à votre apport de la psychologie religieuse et de vos études en théologie à Montpellier qui vous font travailler sur, alors, Henri Bois, mais c'était le siècle dernier, bien avant même d'ailleurs, et Hans Hardy.
Oui, alors Henri Bois, effectivement, a commencé à enseigner à la faculté de théologie protestante de Montauban à partir des années 1887-88 à peu près. Et ensuite, il a continué jusqu'au transfert de la faculté de théologie à Montpellier. Il a été le premier doyen de la faculté de théologie protestante de Montpellier, transfert ayant eu lieu en 1919, après la Première Guerre mondiale. Et donc, j'ai travaillé sur cet auteur. Il était à la fois théologien et philosophe. J'ai écrit plusieurs articles déjà sur Henri Bois, notamment sur la psychologie religieuse d'Henri Bois. Est-ce qu'il y a une continuité à la faculté de théologie protestante de Montpellier, initiée, lancée par Henri Bois et qui a été peut-être reprise par le professeur Jean Hans Hardy, qui était présent dans cette faculté de Montpellier dans les années 1980, par là.
Et pour les spécialistes qui voudraient creuser, je pense qu'on peut citer le néocriticisme d'Henri Bois qui est paru dans les études théologiques et religieuses, n'est-ce pas, en 2023, et qui est dans des revues internationales très cotées, comme des études théologiques et religieuses en 2017. Mais ça, vous pouvez contacter Radio Présence pour avoir des informations plus précises, ou aller sur Internet. Donc Internet, ben oui, c'était pas du temps de Jonas, mais nous avons un esprit de la technique. Et alors, votre thèse en deux lignes, parce que vous avez d'autres ouvrages en cours.
Oui, alors la thèse, oui, effectivement, s'intitule Le néocriticisme d'Henri Bois. C'est le néocriticisme est une philosophie née en France avec Charles Renouvier, François Pillon au 19e siècle. Et Henri Bois a repris cette philosophie. C'est une philosophie très simple, hein, ça part du kantisme, mais c'est une critique du kantisme. Henri Bois l'a défini comme un kantisme non orthodoxe, alors que d'autres théologiens protestants à l'époque, comme Auguste Sabatier à Paris, étaient plutôt fidèles à Kant. Henri Bois, lui, il s'est démarqué de Kant. Donc le néocriticisme d'Henri Bois est surtout connu pour être à mi-chemin entre Kant et Bergson, déjà Bergson avec le temps, la réflexion que Bergson propose sur le temps.
Alors, peut-être que je vous arrête de nouveau, parce que déjà il y a 3 ans, nous étions un petit peu, je ne dis pas affrontés, mais nous avions dit, y a-t-il une philosophie universelle? Y a-t-il une théologie? Vous qui étudiez l'inculturation, vous l'appelez d'un autre nom, depuis Madagascar jusqu'en Europe, moi qui suis plutôt sensible au courant marxiste de l'Europe de l'Est ou de la Pologne du temps du communisme, y a-t-il un universalisme des droits de l'homme ou de la foi par rapport à la raison?
Je pense qu'on ne peut pas vraiment dire qu'il y a une universalité d'une philosophie, par exemple. Parce qu'une philosophie, en tout cas, c'est ce que je lis par exemple chez Kant, mais aussi chez Henri Bois, qui reprend un petit peu Emmanuel Kant sur ce point. Les croyances sont toutes relatives à chaque personne. Les connaissances sont finalement des constructions que chacun met en place à partir d'expériences vécues. Notamment pour les croyances, il s'agit d'expériences religieuses et on établit des croyances à partir de ces expériences.
Ça veut dire qu'il y aurait un impératif catégorique, si on reprend Kant mal compris, ou bien alors, puisque je m'adresse à un pasteur, ici, dans cette religion, dans cette radio œcuménique, une prédestination?
Alors, en parlant d'impératif catégorique, si on part de là, Kant a décliné l'impératif catégorique sous trois formes. Il y a l'universalité, le principe d'universalité, bien sûr, mais un peu moins connu, le principe de réciprocité et le principe d'humanité. Et c'est, je pense, à partir de ces deux derniers principes que nous arrivons à la question de la prédestination, c'est-à-dire, par exemple, la réciprocité fait que on ne peut jamais imposer à quelqu'un quelque chose soi-disant universel, soi-disant une vérité absolue, qu'il faut toujours que la personne en question puisse être à la fois l'auteur des règles qu'il adopte et en même temps aussi se considérer comme soumis ou subissant les mêmes règles. Donc, et puis aussi l'humanité, c'est que l'être humain, pour en tout cas dans cette interprétation de l'évangile par Kant, l'être humain ne peut jamais être utilisé comme un moyen, mais toujours comme une fin. Et là-dessus, je pense que la question de la prédestination passe à la trappe.
Alors, on revient sans doute à ce psaume que vous nous aviez annoncé, que je vous avais annoncé, le 97. Alors là encore, nous ne sommes pas d'accord, 96, 97, mais vous savez que nous le lisons dans la Taube ou bien dans la Bible Second, le Seigneur est roi. En démocratie, ça fait un petit peu tâche, mais ce que je lis au verset 9, c'est toi, Yahvé, le Très-Haut sur toute la terre, dominant de haut tous les dieux. De nouveau, cette phrase, nous pourrions la commenter pendant des heures par rapport à cette question de l'univers, de ce cosmos qui nous interpelle, puisque nous avons de nouveaux outils pour voir les comètes, les planètes, et avec des nouveaux objets, des nouveaux satellites qui vont l'observer. Mais vous, je crois que vous insistez beaucoup plutôt sur le verset final, 11 et 12. Et là encore, je pense que je ne serai pas d'accord avec vous, mais je vous en prie, prions avec le psalmiste pour le juste. Une lumière est semée. Et alors le méchant, Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants.
Oui, mais justement, la lumière est semée partout. Le juste l'accueille et le méchant ne l'accueille peut-être pas. Et justement, le verset 9, j'aime beaucoup parce que ça introduit bien cette universalité de la lumière semée, capable de créer de la justice et de la justesse chez toute créature.
Et de la joie, en fait.
Et de la joie, c'est ce que dit
c'est
le
ça
verset,
qui vous oui. motive oui, oui. et qui vous rend si serein, si heureux.
Oui, oui. Et ce verset 9, là, qui, en fait, je l'interprète ou je le traduis comme ceci, c'est-à-dire que s'il y a un Dieu, il est vraiment au-dessus de tous les noms que nous pouvons imaginer être nom de Dieu, c'est-à-dire qu'on l'appelle Allah, qu'on l'appelle Jéhovah, Yahvé, ou le Père, tous les noms qu'on peut utiliser pour nommer ce Dieu. Eh bien, ne suffisent pas, mais que s'il est Dieu, il est vraiment au-delà, au-dessus de tous ces noms-là.
Et c'est pour ça que vous avez choisi aussi ce chant final qui va nous faire, enfin, qui va faire prier certains. Juste, réjouissez-vous à cause de Yahvé, à cause du Seigneur, à cause du roi de l'univers. Célébrez-le en évoquant sa sainteté. Dieu seul est saint, même si dans la liturgie, nous l'honorons. Alors, je répète la table ronde, je le redis, cher Minot, table ronde le dimanche 2 juin, 14h30, au Vieux Temple. Vous en serez l'animateur, disons, de cette table ronde. Et vous pouvez appeler au 06 15 91 94 49. Nous vous disons à bientôt et merci Minot, merci aussi à Christophe qui nous fait apprécier ce chant de André Gouze.
Oui, sur le psaume 97, merci beaucoup à vous Benoît, merci pour ce temps, cette émission qui apporte beaucoup aux uns et aux autres, merci.
Merci à Christophe pour l'enregistrement.
La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne.
Chantez au Seigneur un chant nouveau, à son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations.
Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière